novembre, mercredi, ici Guy Simard, voici les nouvelles. Québec compte imposer un arrêté ministériel pour empêcher temporairement les optométristes de se désaffilier de la régie de l'assurance maladie. Selon l'Association des optométristes, près de 90% de ses membres ont décidé de se retirer de la RAMQ en raison de l'impasse dans les négociations entourant la compensation qui leur est versée par le gouvernement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit désormais se rendre à l'évidence, dit-il. Le gouvernement est forcé d'agir pour protéger les patients.
En fait, ce qu'on veut, c'est donner le temps de finir les négociations. C'est toujours un peu la même chose. Moi, je regarde toujours la perspective du patient, des Québécois. En ce moment, je voudrais pas que les gens n'aient pas les moyens d'avoir les services en optométrie qui sont nécessaires. Donc, quand on fait un moratoire, c'est être capable de donner le temps de finir les négociations. Puis c'est ce qu'on a demandé.
L'Association des optométristes du Québec compte contester cet arrêté ministériel. Santé Québec prolonge d'un an la période de transition pour les employés qui occupent deux emplois dans le réseau de la santé et des services sociaux et qui travaillent plus de 40 heures semaine. 1300 personnes risquaient de devoir choisir entre deux emplois à compter du 1er décembre, alors que tout le réseau relèvera d'un seul employeur qui souhaite éviter de voir leur payer des heures supplémentaires. Dans un communiqué, Santé Québec a indiqué souhaiter prendre le temps de les accompagner et limiter les impacts sur les usagers et le personnel dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il s'opposerait à tout amendement au projet de loi C-282 qui vise à exclure les secteurs touchés par les gestions de l'offre de négociation commerciale. Il affecterait entre autres les renégociations prévues pour l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Depuis mardi, le Sénat débat d'un amendement qui limiterait substantiellement la portée de la loi. M. Trudeau a assuré qu'il ferait tout pour défendre la gestion de l'offre.
Je peux être absolument sans équivoque est très clair. Nous allons toujours protéger la gestion de l'offre. Quelle que soit l'opinion des augustes sénateurs, nous allons défendre, c'est ironique, nous allons défendre l'intégrité de notre système de gestion de l'offre, même en négociation d'un nouveau traité de libre-échange.
Randy Boissonneau n'est plus ministre, il ne fait plus partie du conseil à Ottawa. Justin Trudeau et lui ont convenu qu'il se retire du cabinet dès maintenant. Selon le bureau du premier ministre, M. Boissonneau va se concentrer désormais à faire la lumière sur les allégations à son encontre, alors que sa prétendue ascendance autochtone est remise en question. La ministre Ginette Petitpas-Taylor assumera temporairement cette fonction de ministre de l'Emploi, du Développement, de la Main-d'œuvre et des Langues officielles. L'Ukraine critique la fermeture de l'ambassade sur son territoire. Le Canada a imité les États-Unis aujourd'hui en fermant à son tour son ambassade à Kiev, tout comme l'ont fait l'Italie et la Grèce. Des menaces imminentes de frappes aériennes auraient été confirmées à Washington. Les alertes anti-aériennes ont d'ailleurs résonné plusieurs fois dans la journée aujourd'hui dans la capitale. La diplomatie ukrainienne affirme toutefois que la menace est la même chaque jour depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Elle appelle les pays qui ont fermé leur ambassade à ne pas nourrir la tension. Le comédien français Pierre Palmade a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir provoqué un accident qui a causé la mort d'un enfant à naître et de graves blessures à 3 autres personnes. C'était le 10 février 2023. Lourdement drogué, après 3 jours de débauche sans dormir, Palmade avait percuté de plein fouet le véhicule des victimes sur une route de Seine-et-Marne. Selon le récit de l'AFP, le tribunal n'a mis qu'une heure à le trouver coupable de blessures involontaires. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Brune intermittente, 5 degrés ce soir, cette nuit à Québec, 7 demain, brune intermittente toujours. Pour Sherbrooke, on prévoit 30% de risque d'averse cette nuit, 2, 40% de risque d'averse demain, 9. Trois-Rivières, 5 et 8, de 40 à 60% de risque d'averse. Gatineau, 30% cette nuit, 100% demain, 5 et 6. Montréal, cette nuit, 5, demain, 10, 40% pour les risques de pluie.
Cogeco Nouvelles. Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. FM 93.
Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Ça va aller loin. Ça va aller loin.
Avec Geneviève Petersen. Un texte sous la plume de Maïté Bellemire dans Le Devoir qui, je trouvais, était quand même assez représentatif de ce que plusieurs on peut vivre sur le marché du travail. On le sait, on travaille de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps. Parfois, c'est par choix, parfois, c'est par obligation. Puis, bon, on a un départ quand même à la retraite massif des baby boomers. On a beaucoup parlé de liberté 55. Je pense que c'est juste un mythe. Et là, on se retrouve avec des travailleurs qui ont tous les âges, en fait. C'est des gens dans la soixantaine, dans la cinquantaine qui côtoient d'autres personnes, dans la trentaine, dans la vingtaine. Et bon, je pense que vous l'aurez deviné, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Il y a des clashs générationnels qui se poursuivent et qui sont très, 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 très présents. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, là, des espèces de préjugés du genre « Ah, moi je suis une millénial, là, fait quand on est arrivé sur le marché du travail, bon, de la part des baby boomers, on avait comme beaucoup de commentaires négatifs du genre « On veut pas travailler, on veut des vacances tout de suite, on veut tout, tout de suite, le travail c'est plus important. » Bon, là, moi je suis rendue à 42 ans, fait qu'il y a une autre génération qui pousse derrière moi, ce sont les Z. Et il y a un peu le même genre de préjugés envers les Z. Donc, on dirait qu'on s'en sort pas de tout ça, de ces relations-là souvent compliquées. On va en discuter avec Tania Sabat, qui est titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance. Elle est prof à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse à ces questions-là, la différence d'âge entre les collègues de travail. Madame Sabat, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Peterson.
Bon, c'est intéressant quand même ce texte-là dans Le Devoir parce que c'est une réalité avec laquelle on compose, avec laquelle on va composer de plus en plus. Moi, j'ai envie de vous lancer tout de suite sur la question suivante. C'est quoi les bienfaits, parce qu'on commence sur une note positive, là. C'est quoi les bienfaits d'avoir des travailleurs de tous les âges au sein d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on tire de ça?
D'abord, disons qu'on n'a pas trop le choix, n'est-ce pas, parce que la population active suit la composition de la population en général.
Okay.
Et en ce moment, on a pour les 30 prochaines années encore à vivre quand même avec un taux, si vous voulez, une représentation des personnes qui ont 55 ans et plus, qui est presque équivalente au taux des personnes qui ont entre 25 et 55 ans. Mmh. Ce que ça veut dire, c'est que la présence dans la population et représentative de ce qui va être dans la population active et donc dans nos milieux de travail. L'aspect positif, c'est qu'on a besoin de tout le monde, n'est-ce pas, du potentiel de tout le monde dans les organisations. En pleine transition numérique, l'intelligence artificielle, les transitions environnementales, des gens amènent leur expérience, d'autres amènent certainement beaucoup d'enthousiasme, d'autres leur savoir technologique. Ouais. Je veux dire, on a besoin de tout le monde.
Mais je parlais des préjugés parfois que les plus vieilles générations peuvent avoir pour les plus jeunes, mais l'inverse est aussi vrai. Et là, ça c'est ce qui m'a un peu surprise dans le papier de Mme Bellemire, c'est le fait de dire que parmi les gens plus jeunes, les travailleurs plus jeunes, on aurait certains d'entre eux qui auraient moins confiance en leurs collègues vieillissants, trouvent qu'en vieillissant, ils sont peut-être moins intéressants, moins crédibles, puis ça ferait en sorte que ça créerait des tensions. Est-ce que c'est documenté, ça?
Non, je ne pense pas que ce soit documenté. Ce sont souvent des impressions que nous avons. Moi, j'ai fait des études pour étudier les différences entre les générations. D'abord, pour étudier les différences entre les générations, il faut que chaque génération elle-même soit homogène et soit différente des autres. Or, et après des années d'études, ce qu'on voit, c'est qu'il y a autant de différences à l'intérieur d'une génération qu'il y a entre les générations. Donc, il y a autant de personnes qui pensent différemment à l'intérieur d'une génération, qui veulent des choses différentes, etc., qui fait que ça annule les choses. C'est sûr qu'on vit des contextes économiques, parfois des contextes technologiques, qui font en sorte que certaines générations vont peut-être accumuler certaines tendances, mais ça ne peut pas être généralisable. Par contre, ce que l'on voit, c'est effectivement certaines valeurs qui ont commencé avec les générations précédentes, mais qui vont plus loin avec les générations actuelles.
Par exemple?
L'équilibre travail-famille, la recherche d'une qualité de vie au travail, le fait de pas nécessairement faire passer le travail avant justement cette qualité de vie, le bonheur au travail, le plaisir au travail. Et donc, on ne l'entend plus. Pourquoi? Parce que les milléniaux sont plus nombreux, suivis par la génération Z. Mmh. Ce sont des valeurs qui se renforcent. Une autre valeur très importante qui se renforce, c'est la stimulation au travail. Je veux que mon travail compte pour quelque chose. Je veux sentir que je change les choses. Ça ne veut pas dire que les générations précédentes n'avaient pas ce genre de valeur. ce sont des valeurs qui se sont renforcées, donc qui ont commencé avec des générations précédentes.
Mais c'est intéressant.
Parce que les contextes économiques n'étaient pas nécessairement assez favorables pour permettre, par exemple, de l'exiger des employeurs.
C'est comme si on avait commencé à réfléchir à tout ça, par exemple, du côté des baby boomers, et qu'on avait continué la réflexion puis qu'on l'avait mise en pratique avec les générations qui ont suivi. C'est ça que vous
dites? Absolument. Je ne vois pas de renforcement. Je ne vois pas de chambardement dans les valeurs. Je ne vois que des renforcements dans les valeurs. Et il y a des valeurs qui restent très fortes pour tout le monde. L'universalisme, par exemple, le fait de s'occuper de l'environnement, l'altruisme, etc. Le fait aussi de vouloir suivre le développement de soi, ça reste quand même des valeurs qui sont importantes pour tout le monde.
Est-ce que, parce que dans le texte du devoir, on a un concept qui s'appelle le concept de l'âge organisationnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi et à quoi ça sert?
Ben, écoutez, l'âge organisationnel, encore une fois, c'est un concept un peu même qui est nouveau pour moi. J'ose imaginer qu'il réfère à cette idée donc de représentation des âges. Ça peut aussi représenter chaque type ou chaque secteur d'activité aussi peut avoir une tendance à avoir, par exemple, de représentation de personnes plus âgées ou des moyennes d'âge qui sont moins élevées. Pourquoi? Parce qu'il y a certains secteurs où il est plus facile, où par exemple la rétention est plus grande sur la durée. Encore une fois, l'équilibre démographique n'est pas toujours le même à l'intérieur de tous les secteurs.
Mais non, parce qu'on peut avoir par exemple des compagnies où on travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, où on aurait tendance à penser que ce sont des compagnies qui attirent les travailleurs qui sont plus jeunes. Puis ça, il y en est question aussi dans ce papier-là du fait que, bon, l'âge, c'est peut-être un peu plus dévastateur pour les personnes plus vieilles parce que les employeurs, même dans leur tête, sont en train de se dire, ben ces gens-là ont plus de difficultés à justement composer avec les nouvelles technologies, à apprendre des nouvelles choses. Ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent de la même façon qu'ils ne pourront pas changer leur façon de faire. Ça, c'est quand même malheureux, là, parce que c'est pas nécessairement vrai.
D'abord, c'est pas nécessairement vrai. Et puis, quelque part, c'est un peu un problème qui nous revient à nous tous comme société.
Ouais.
C'est la question du développement continu puis de l'apprentissage continu. On ne peut pas penser que on commence à penser aux connaissances d'une personne, à son savoir, quelques années avant qu'elle ne quitte pour la retraite, puis à commencer à penser que finalement elle pourra pas prendre la vague technologique. Il faut que le développement se fasse à toutes les phases de la vie. D'ailleurs, quand on voit, puis moi j'ai étudié longtemps les trajectoires des fins de carrière, les trajectoires de fin de carrière sont très diversifiées. Vous avez des personnes qui arrivent à l'âge de 55 ans qui sont encore en pleine évolution de carrière, ils
ne
pensent même pas ni à la retraite bien, compétences à jour, grandes connaissances, capables de développement, d'autres qui comptent les jours avant de partir à la retraite,
oui.
Ça aussi, qui ont le calendrier à X, c'est aussi, donc, et il y a, on voyait aussi, par exemple, beaucoup des tendances où les personnes partaient selon que le conjoint, surtout les femmes suivaient leur conjoint souvent. Alors ça aussi, ce sont des tendances qu'on constate de moins en moins. Les carrières sont beaucoup plus diversifiées, sont beaucoup plus distinctes. Donc, il faut surtout pas verser dans ce genre de préjugés, surtout avec la composition de la population active d'aujourd'hui. Puis, comme on est quand même, c'est dommage de le constater un peu à la traîne en matière de développement des compétences. Nous avons des bonnes politiques publiques pour le faire. Il faut vraiment une volonté sociale, une volonté organisationnelle, une volonté de les renforcer. Parce que même les jeunes aujourd'hui qui vont arriver dans les milieux de travail quelques années, puis déjà on va commencer à voir que les reconnaissances si elles ne sont pas maintenues à jour, ben, elles vont certainement perdre de leur valeur.
Ah, j'ai envie de dire qu'on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre, Madame Sabat. Fait qu'il faut garder ça en tête.
Si les milléniaux commencent à être...
Ben oui, on commence à être vieux, là, absolument. Ben oui, les aides... on se transforme, on est tous le vieux de quelqu'un, ça va tous nous arriver, donc je pense qu'il faut garder ça en tête.
Puis, je vous dirais aussi, il faut faire attention au découpage des générations. Ça n'a pas beaucoup
d'accord.
De fondement scientifique.
Ben,
à part
ouais.
La génération du baby boom.
Oui, parce que ça, c'est un peu différent.
Exactement, l'après-guerre, etc., c'est pas très scientifique comme découpage, disons.
J'ai envie de vous poser une dernière question avant de vous laisser aller sur les solutions pour apaiser ces tensions, s'il y en a, bien entendu, entre les générations, dans les milieux de travail. Quelles seraient-elles les solutions?
Ben, honnêtement, c'est le dialogue. Moi, je vous dirais toujours, et puis une